Mais pour commencer, Louis Lacerte. Bonjour, Louis Lacerte.
Bonjour.
Bonjour.
Louis Lacerte de la Galerie Lacerte Art Contemporain, qui collabore cette année pour la première fois à la Manif d'art. Alors, c'est une belle première expérience pour vous?
Oui, ben, c'est la première fois qu'ils sont venus nous voir pour participer.
Donc, c'est une bonne invitation que vous avez eue.
Effectivement. Donc, on est toujours présents. Donc, pour nous, c'était naturel de joindre la manif.
Et vous nous arrivez avec un projet d'un artiste cubain dont le titre d'exposition s'appelle « L'étoile qui illumine et tue ». C'est présenté chez vous jusqu'au 16 juin. Il s'agit de Carlos Quintana. Quelques mots sur cet artiste-là.
Carlos Quintana, c'est un artiste cubain qui a émigré vers Madrid en 1993 et qui fait depuis ce temps-là la navette entre l'Europe et sa ville natale de La Havane. Et c'est un artiste qu'on a rencontré d'abord, on a vu son œuvre sur les foires, principalement en Europe, là, un peu en Floride aussi.
C'est un coup de cœur, je pense, pour vous.
Oui, et suite à ça, on a été rencontrer les dirigeants de la galerie Habana là, à La Havane. Et on a rencontré différents artistes cubains là, dans leurs ateliers à ce moment-là. Et on a rencontré Carlos, là, qui est un individu assez particulier, là, assez unique. Là.
Ah oui? Dans quel sens c'est un...
Ben, c'est un tout petit homme, là.
Ah oui?
Filiforme, je dirais, là, mais... que les os, là, la peau, c'est les os.
Ah, oui.
Mais qui
donne
une
photo
énergie là, incroyable.
Oui, hein, c'est quelqu'un qui a l'air...
de bouger, là, un hyperactif.
Un petit paquet de nerfs, comme on dit.
Un paquet de nerfs, oui. Ouais. Donc, un gars, il carbure à l'aide de la Heineken là, du matin au soir.
Non, mais c'est bon, ça.
Il est toujours en...
D'ailleurs, il a profité d'une résidence, en quelque sorte, dans un atelier que vous connaissez bien.
Effectivement, ben moi, je lui ai prêté mon loft à Montréal. Moi, étant donné qu'on a la Galerie Orange à Montréal, on est obligé d'être là à chaque semaine. Là, donc, j'ai un loft là-bas là, qui était un ancien atelier d'artiste.
Oui, parce que quand il travaille, lui, on voit, là, quand ça dégouline sur le tableau, ça dégouline sur le mur aussi en bas.
Catalogue, hein? Il y a plusieurs photos de l'atelier.
Ouais.
Là.
Oui, c'est beau d'ailleurs.
Donc, on a été quitte pour une job de peinture suite au passage de El Niño. Là.
Ouais.
C'est son surnom. Oui.
El Niño, ça lui va bien. Ouais. Mais c'est un peintre énergique, il n'y a pas à dire. On voit là, comment c'est peint.
C'est un gars qui est drivé par le geste de dessiner. Il faut absolument. Il ne peut pas rester en place. Tu vas manger avec, il tasse son assiette puis il se met à dessiner. Donc, il est en voiture, il dessine.
C'est bon, ça?
Il faut absolument qu'il... C'est une drive, là. Ça vient de l'intérieur. Là. Pour moi, c'est bien important là, de voir que je suis un artiste. Là, le fait de barbouiller ou de dessiner ou peindre, que c'est quelque chose de très central dans la vie de l'artiste.
Là. C'est vital, c'est vital.
C'est vital. Et puis, tu sens que c'est son énergie. Là. Ça lui prend ça. Là. C'est un gars qui est toujours en train avec un crayon dans les mains. Là.
Puis dans ses tableaux, même dans la peinture, on voit la fraîcheur du dessin. Hein. C'est pas une peinture qui est léchée, qui est toute corrigée. Là. C'est une peinture qui est gestuelle, qui est dessinée.
C'est direct. Bon, l'expo a été fait en l'espace de 4 semaines ou 5 semaines.
Ah oui?
Là.
Ah, oui.
T'sais, donc, c'est une bête. Là.
Vous en avez une couple comme ça. Il y a François Chevalier aussi.
Okay, bon, François Chevalier, c'est le même genre d'énergie. Francine Simonin, Louis-Pierre Bougie aussi. T'sais, c'est des gens qui ont besoin de travailler. Serge Lemoine était de même aussi. Lemoine était
un hyperactif.
Là. Mais quand Lemoine produisait dans ses ailes puis de production, on prend la série Hommage à Matisse, il y en a fait quand même peut-être 600, 700. Là. C'est des productions fleuves, là. Et puis un gars comme Carlos, c'est ça aussi.
Il y a combien de tableaux en 4 semaines?
Il a fait 13 tableaux et 15 grands dessins en 4 semaines.
Puis on parle des dimensions de 4 par 6.
De 4 pieds par 6 pieds.
C'est pas petit. Hein.
Non. Non.
Ah, ouais,
et puis le temps de s'habituer au lieu, aller chercher les canevas, mais c'était du matin au soir. Là, c'était comme... puis tard dans la nuit, il faisait ses siestes. C'est des gens qui vivent à un rythme que tu dis, ils vont tomber, là, mais ils tiennent le coup.
Puis dans ces tableaux, on voit des références à une religion. Il y a on dirait des bouddhistes à certains endroits.
Ben la religion Yoruba, là, qui est la religion qui est une religion qu'on retrouve à Cuba, qui vient des esclaves africains. Mm-hmm. Donc, quand les esclaves africains sont arrivés, les Espagnols leur ont permis de continuer à pratiquer leur religion.
Oh,
parce que
c'est rare, oui.
Ouais. Parce que, bon, ils trouvaient que l'Église catholique, à l'époque, trouvait que ça coûtait trop cher pour construire des églises pour le cheap labor, là. Ouais, donc, ils leur ont... c'est assez épouvantable. Mais ils ont permis à ces gens-là de garder leur religion. C'est une religion dans laquelle il y a beaucoup de demi-dieux, là, puis tout ça, là. Et puis, on...
Donc, c'est ces personnages-là qu'on voit,
ça,
c'est souvent
inspiré. C'est très référence à ça, oui. Mm-hmm. Aux déesses, différentes déesses qui représentent la mer, qui représentent la terre, là, qui représentent les différents...
Et il y a des toiles qui sont complètement noires. Il y a ces...
Ouais, il y a un tableau qui était complètement noir, mais c'est quelque chose qu'il a fait dans le passé aussi. Okay. Là. C'est quelque chose qui, dans l'expo courante, il y avait un tableau qu'on a mis en couverture du catalogue. Oui. Là. Mais c'est des choses que, bon, à travers sa production, on trouve des tableaux avec des fonds noirs ou des fonds...
Ça doit être assez spécial de faire un tableau de ce format-là en noir. Ça doit être particulier comme expérience, là.
Ouais, mais c'est parce que c'est un artiste d'ailleurs qui, puis ça c'est assez rare. C'est un artiste qui travaillait en présence de gens dans son atelier, donc
ah ouais.
Aussi donc
ça le dérange pas lui.
Non, lui il aurait fait baisser un peu les deux doigts dans le nez.
Ouais.
C'est pour lui c'était. Puis à un moment donné, il était tanné de nous parler. C'est vrai que notre espagnol est assez rudimentaire, son anglais est très rudimentaire là. C'est vrai que
ses pinceaux sont pas rudimentaires.
Non. Alors,
Donc, lui, ça le dérange pas, l'inspire. De toute façon,
non,
c'est
non.
Pas
et
pas
puis quand tu voyais travailler, c'est vraiment, là, il est en transe, là. Il est en, tu sais, ça y va au toast, là. C'est pas, c'est quelque chose d'automatique, là. C'est, mm-hmm. C'est donc, il est pas en train de se reculer puis
réfléchir,
d'aligner son pinceau, là. Ouais, c'est vraiment un travail de dessin, hein. Et puis, il crache, il va faire... tu sais, c'est vraiment... Il est dans son tableau.
C'est quasiment
là,
une thérapie, quelque part.
Oui, non, mais c'est vraiment... Il y a vraiment une...
Les sportifs, presque.
Oui. Effectivement, ça l'a...
Puis, il y a aussi une utilisation de l'espace. Je regarde ici la page 20-21 dans le catalogue. On va parler des catalogues après. Il utilise l'espace d'une façon pas conventionnelle. C'est figuratif, naturellement, mais c'est peint... Puis c'est dessiné de tous bords, tous côtés.
Ouais, on se demande s'il n'y a pas de tournée de tableau. Il tourne ses toiles, hein? Ses papiers. Ouais. Effectivement, là, ces canevas, là, ils revirent de bord. Après ça, des fois, ils sont tête bêche et puis tous les sens.
De côté.
Il n'y a pas de loi, là. C'est sa loi à lui qui fait.
Oui, effectivement.
C'est très bien dessiné. C'est très beau.
Parlons-en des catalogues, Richard.
Oui, parce que ça, moi, ça m'intéresse. Les éditions Lacerte. Vous autres, chez Lacerte, vous êtes les peu nombreux dans les galeries à produire, puis surtout avec une qualité de cette nature-là, vos propres catalogues.
Oui.
C'est quoi l'aventure de...
Ben, l'aventure des catalogues, moi, j'ai toujours, dans ma grande naïveté, cru que ça prenait des outils professionnels, faire un travail professionnel.
Ben, absolument,
là.
Oui.
Et on a commencé à produire du catalogue il y a une douzaine d'années chez nous. Et puis, mon esprit comptable, à un moment donné, bon, je me suis dit, bon, on pourrait peut-être intégrer un département graphique là, dans la galerie, puis commencer à faire nos propres cartons d'invitation, nos propres catalogues. Et puis, c'est devenu une business parallèle à la business de la galerie.
Donc, mais là, quand on parle, c'est pas juste le graphisme, mais la machine est là, l'imprimante qui est grande, qui a, je sais pas, 30 pieds de long.
Ça, c'est la nouvelle bebelle qui vient
nouveau.
De rentrer. Là. Donc, ce qu'on... On faisait de l'imprimerie traditionnelle, on continue à en faire. Donc, on a tout un département de pré-presse, donc des scanners rotatifs, tout les graphistes et puis tout ce qui peut faire, ce qui constitue le pré-presse. Donc, et puis depuis trois mois maintenant, on a une presse numérique, donc qui nous permet de faire du catalogue à court tirage. Mm-hmm. Donc, ce qui était toujours permet d'arriver avec des budgets plus restreints, là, de dire bon ben on peut faire une production graphique autour de 5 000 $, un catalogue qui normalement aurait coûté 8 000 ou 8 500.
Ah ouais, donc. Donc tu as des petites quantités.
Des petites quantités, tu as besoin de 300 catalogues, 500 catalogues, tu as besoin de de 20 affichettes, 30 affichettes. Tu sais, ça permet d'imprimer en 13 pouces par 19 pouces, là.
C'est bon.
Parallèlement à ça, donc, on peut faire du catalogue en brochure, on peut le faire en reliure allemande, en cousu-collé, tout est ouvert, là. C'est vraiment, puis dans les, jusqu'à 600-700 copies, ben c'est vraiment avantageux. Là, quand tu approches du millier de copies, ben tu viens vers l'imprimerie traditionnelle, les coûts te rattrapent. Là.
Mais en même temps, c'est un outil de travail, ça, c'est formidable.
Fantastique.
Parce que c'est ça qui reste après les expositions.
Effectivement. Hein?
C'est un outil pour l'artiste, c'est un outil
pour les galeries. Oui, puis moi, mon expérience, c'est qu'un catalogue, des fois, ça va se payer en une seule vente 3 ou 4 ans plus tard, là, parce que, bon, le catalogue a traîné, ça peut provoquer une exposition chez un autre marchand ailleurs. Ça peut. C'est des outils assez essentiels qui sont coûteux au départ, là, mais qui, à longue haleine, là, valent vraiment la peine d'être faits.
Il y a beaucoup de collectionneurs qui aiment acheter l'œuvre qui est reproduite. Hein,
effectivement.
C'est un comportement qui est bien, c'est normal. Hein,
oui.
Parce que ça donne une plus-value.
Bon, donner une plus-value, je ne passerais pas, mais sauf que ça assit l'œuvre dans un contexte. Hein.
Oui, Pierre.
Donc, à moyen ou à long terme, ben c'est toujours agréable de dire bon ben cette œuvre-là était dans tel catalogue. J'ai pas la prétention d'organiser des expositions toujours historiques, là.
Mais ça arrive quand même.
Mais ça pourrait arriver. C'est le fun qu'il y ait des références.
Puis quand on parle de catalogue, on parle surtout d'images imprimées en couleur de haut niveau, mais on parle aussi d'Annie Lafleur qui écrit dedans.
Oui, Annie,
des fois, c'est bilingue même. Hein?
Oui, c'est, dans ce cas-là, il y a
un
texte qui est traduit en espagnol dans le cas de Carlos. Un texte plus... Il y a un texte plus terre-à-terre au début là, qu'on a traduit en anglais, et puis le texte plus poétique là, qui lui est traduit en espagnol.
Ben Louis Larcette, merci beaucoup.
Bienvenue.
Bonne chance pour l'exposition de Carlos. Le vernissage cet après-midi à 2h.
Oui, à 2h.
Et l'exposition est là jusqu'au 16 juin, donc jusqu'à la fin de la manif d'art.
Très bien. Merci de m'avoir accueilli. Bye-bye.
Bye.